le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, 14h11 et nous sommes toujours en direct ici à Bordeaux, au centre de congrès, 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Beaucoup de monde, ce qui nous permet de dire qu'il était temps que l'on se revoie après 2 ans de visio et de call en veux-tu en voilà. Ça nous fait plaisir physiquement d'être présent. Quelqu'un qu'on connaît bien sur les antennes de Territoria et de Radio Immo, d'ailleurs un de nos partenaires. J'ai le plaisir de l'accueillir sur le plateau, Damien Van Auberchel, le directeur général de Haute-Seine Habitat. Bonjour Damien.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Comment ça va ?
Bien, ça va bien.
Alors, le fait de. Alors, premier sentiment comme ça, de revenir après quoi ? 2 ans, hein, c'est ça ?
Oui, 2 ans, deux ans de solitude presque dans l'exercice des fonctions de direction.
On n'a pas vu beaucoup de monde en 2 ans.
De lobbying ou de réseau, quoi. Donc c'est vrai que ça fait du bien de revoir des regards, puisqu'il y a encore le masque un peu sur le sourire, mais c'est déjà quand même.
Donc première sensation pour vous, positive, du monde, des rencontres, utiles.
Beaucoup de rencontres, et je pense que des échanges aussi, des thématiques qui sont abordées dans les forums qui sont vraiment très intéressantes.
Alors Damien, je ne peux pas résister forcément, il va falloir que je vous fasse réagir sur ce qu'a dit tout à l'heure Jean Castex, qui était d'ailleurs pas loin d'ici, il est passé sur le stand de Procivis où nous avons notre plateau. D'ailleurs, je rappelle que demain vers 16h30, Madame Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, sera avec nous ici sur le plateau pour forcément commenter ce qu'a dit le Premier ministre. Quels sont les points qui ont le plus marqué dans ce qu'a annoncé Jean Castex tout à l'heure ? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu des réactions en demi-teinte.
Voilà, je pense que déjà, il faut dire ça. Je pense qu'il y a une non-reconnaissance de la responsabilité de l'État sur la chute vertigineuse des agréments et de la production sur les 3 dernières années. Oui. On met ça sur le dos de la crise, mais en fait.
Malgré le fait que la ministre du Logement a annoncé 250 000 d'ici dans
oui,
les deux
ans. Oui, c'est un objectif mais avec quels moyens ?
Oui,
la question continue de se poser. Il n'y a pas de remise en cause de la réduction de loyer de solidarité. On échappe de justesse à une surcompensation aux opérations. Dans le cadre des financements publics. Et puis là, on n'a pas de mesures concrètes, réelles, de soutien. On a éventuellement des mesures fiscales qui peuvent participer au développement d'offres, mais j'ai entendu surtout de l'offre du PLI. Or, on a 2,2 millions de demandeurs de logements sociaux, pas de demandeurs de PLI.
Intéressant ce que vous dites. 2,2 millions de demandeurs de logements sociaux, et si on prend l'ensemble des personnes en mal logement en France, c'est presque 5 millions.
Tout à fait.
C'est un fléau. Alors vous êtes en plus hyper bien placé pour le savoir, parce que vous êtes dans un département dense, difficile, et dans une région francilienne qui représente quand même 1/5 de la population française. Donc vous, c'est un miroir sociologique. Vous pouvez dire ce qui se passe sur le plan de la politique de logement. Mais en fait, qu'est-ce qui manque, Damien ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire réellement ? Si on veut, c'est quoi ? Augmenter sensiblement le nombre d'agréments ? Mobiliser plus de moyens ? Vous savez que les Action Logement ont notamment échappé quand même à une ponction significative d'un 1,3 milliard d'euros. Je vous rappelle que c'était prévu quand même début janvier 2021. Ils y ont échappé. Et qu'on a l'impression que le gouvernement a donné un signal. Alors je ne dis pas que c'est le cas, que c'est vrai, ou en tout cas bien en prise de conscience, mais que de l'utilité de l'action sociale pour l'habitat. Et de votre activité, est-ce que vous avez le même sentiment ?
Oui, c'est vrai que dans le discours tenu,
c'est l'impression
le Premier ministre a eu les mots qu'il fallait pour se réconcilier en fait avec le monde HLM.
Le monde HLM, oui. Tout le monde se rappelle de la sortie de Julien de Normandie à Strasbourg.
Oui, c'était épique, c'était douloureux pour tout le monde. C'était même pour lui aussi.
C'était même un peu exagéré, je trouve. Mais bon, voilà.
Là, donc, se tourne d'abord vers Action Logement en disant qu'il a recréé la confiance entre l'État et Action Logement.
Tout va bien.
Parfait. Et ensuite, il est quand même lui-même ancien maire, donc très, très imprégné des collectivités territoriales. Et ça se sent dans son discours. On sent effectivement qu'il compte sur les préfets pour être dans la discussion avec les élus locaux. Il est dans le rapprochement et donc dans la mise en œuvre d'une politique concertée sur le logement social, dans la mise en œuvre effective. Là où, en fait, on l'attendait plus, c'était des mesures concrètes d'aide au financement, d'avoir le courage, en fait, de mettre en place des plans, notamment sur l'allègement des contraintes à l'aménagement. Il y a de nombreuses procédures quand on lance une procédure d'aménagement, ce qui crée des délais et des possibilités de recours à n'en plus finir. Donc la simplification administrative et la simplification des procédures d'aménagement me paraît aujourd'hui être prioritaire. Il est impossible d'urbaniser un secteur ou de réurbaniser un secteur aujourd'hui dans un délai inférieur à 3 ans. Pour le début du premier coup de pioche, si vous voulez.
C'est beaucoup trop long.
C'est beaucoup trop long. Donc,
c'est impossible.
Les objectifs de 250 000 logements en 2 ans sociaux, c'est absolument inatteignable en réalité.
Mais oui, justement, c'est les annonces qui ont été faites. Ce qui est intéressant, en tant qu'observateur aussi de la vie publique, c'est par exemple d'avoir des annonces à 7 mois de...
Voilà.
Une élection présidentielle importante. Est-ce qu'il y a un calcul politique ou pas?
Oui,
Je prends par exemple le rapport Rebsamen. Pourquoi finalement créer une commission Rebsamen plutôt intéressante, il faut le dire. Et le maire Rebsamen, François Rebsamen, maire de Dijon, a quand même fait un boulot remarquable là-dessus.
Tout à fait.
Mais un rapport qui viendrait fin septembre 2021 pour une élection en mai 2022, entre nous.
Alors, c'est un rapport qui est opportun.
Pour pas dire autre chose.
Plein d'opportunisme.
Voilà, merci.
Et qui contredit en partie le discours de la Cour des comptes, hein, qui remet en cause l'utilité sociale du logement social, finalement. Donc, on est quand même dans une période de temps très courte entre les deux sujets. On voit aussi qu'il y a un geste qui est fait auprès des collectivités territoriales avec l'annonce d'une réforme de l'abattement sur la taxe sur le foncier bâti, enfin sur la taxe sur le foncier bâti pour notamment le logement social, mais étendu, qui serait du coup étendu et compensé à 100% pendant une période de 5 ans sur le PLI. Or, d'une part, le PLI, c'est pas du logement social, donc ça compte pas les 2,2 millions de demandeurs. Hein. Ça ne correspond pas, ce n'est pas la même offre. Et puis d'autre part, j'ai jamais entendu aucun élu local, alors que pourtant je les fréquente depuis le début de ma carrière professionnelle. Je ne suis pas très vieux peut-être encore, mais j'atteins quand même bientôt la demi-cinquantaine, disons. J'ai jamais entendu aucun élu local récriminer contre la perte de recettes éventuelle que lui ferait le développement d'une offre de logements sociaux. Jamais, ça n'a jamais été le motif en fait.
Absolument.
Donc, là, il y a.
C'est très juste ce que vous dites. Ce que vous dites est très très juste. Parce que nous, les maires, on les rencontre comme vous tous les jours. On va partout en France avec nos radios. Et c'est très juste. Pourquoi il y a cette disconnexion entre guillemets et entre ce discours que vous tenez qui est hyper prosaïque, hein, il y a que c'est ce qui se passe tous les jours, vous êtes en prise directe avec le réel, hein,
tout à fait.
Et un discours politique qui est schizophrène. Comprenez qu'après il y a des élus vraiment très mécontents là sur le coup. On est dans le domaine parfois de l'invective. Là, je citais tout à l'heure Jean-Philippe Dugoin-Clément que vous connaissez, qui est vice-président de l'AMIF et maire de Mennecy, mais je peux citer aussi le référent logement James Chéron, le maire de Montreux, etc., qui ne mâchent pas leurs mots sur cette question.
Alors en fait là, par cette disposition, on culpabilise à nouveau les élus locaux en leur disant, vous voyez, c'est vous qui bloquez.
Absolument, on est d'accord.
Et en plus, on leur dit, voyez, en plus, avec cette mesure, comme on va vous compenser en totalité, on va compenser en même temps la baisse de la taxe d'habitation. C'est-à-dire, on vous prive de vos recettes
à l'euro près.
Côté.
Oui, c'est dit, hein. Vous serez compensé à l'euro près. Donc en fait, j'ai noté, hein, la taxe foncière, donc en fait, le département transfère en fait aux communes, aux élus, une partie de leurs recettes à l'euro près. Vrai ou faux, ça?
Alors
on dit qu'il n'y a pas de perte, mais le relais de croissance en fait d'une puisqu'il y a aussi dans ce que vous dites, j'échafaude là, mais l'idée que le maire, qui serait surtout pas un maire bâtisseur, ne voudrait plus loger de nouveaux administrés.
C'est faux, ça. Aucun maire qui serait dans cette logique et qui refuserait en fait d'appliquer la loi SRU. Ils sont tous engagés pour trouver des solutions. Il faut se rappeler qu'en fait la loi SRU est arrivée pour résoudre des problèmes qu'avait lui-même créé l'État avant la décentralisation. C'est-à-dire des villes comme Neuilly-sur-Seine, parce que je suis dans les Hauts-de-Seine, évidemment on peut parler d'un certain nombre de communes qui ont été urbanisées par l'État sans aucun logement social, et que maintenant on demande aux collectivités locales à qui on a transféré les responsabilités de compenser, enfin de raccommoder en fait la ville mal construite. Donc c'est pas avec une incitation fiscale du type on va vous compenser à l'euro près pendant 5 ans l'abattement, enfin l'exonération de taxes foncières qu'on va permettre en fait aux maires de régler le problème
et de chercher du foncier. 769 communes carencées sur une année complète.
Toutes les communes carencées, notamment dans les Hauts-de-Seine, hein, sont aujourd'hui accompagnées à la fois par le département et par Hauts-de-Seine Habitat pour trouver du foncier, pour financer des logements sociaux. Et c'est notre objectif prioritaire, en fait. Hein.
Damien, il y a un problème de foncier, vraiment ou pas ?
Oui, il y a un problème de concurrence sur le foncier.
Ah, d'accord.
Sur le foncier, il n'y a pas de problème de foncier.
Merci. Vous pouvez préciser, ça, c'est fondamental ce que vous dites. C'est pas le foncier qui est le sujet, c'est la concurrence sur le foncier.
Tout à fait.
C'est quoi ? C'est de la surenchère ?
C'est de la surenchère, des projets qui ne tiennent pas suffisamment compte des besoins en logements sociaux et qui du coup sont développés prioritairement par des gros promoteurs ou pour faire autre chose que du logement social. Et donc la question ensuite, c'est effectivement quand on veut faire de la rentabilité économique, fait monter les prix.
Et oui, c'est comme ça qu'on gentrifie finalement.
Et c'est d'ailleurs...
Donc, la gentrification, elle résulte effectivement de cette absence de vision mixte d'un habitat urbain dans lequel, de toute façon, nécessairement, il faudra bien que nous vivions tous.
Tout à fait. Alors, le département des Hauts-de-Seine, puisqu'il a été réélu lors des dernières départementales, hein, donc la présidence de Georges Siffredi a demandé une nouvelle feuille de route, donc d'accompagner les élus pour les aider en fait à être conformes à la loi SRU, donc tous, hein, donc avec un engagement financier du département. Ensuite, il y a les aspects de rénovation urbaine, rénovation énergétique, etc. Et puis surtout la qualité de service. Donc, en mode de financement du logement social, aujourd'hui, on nous dit on va vous exonérer, on va compenser l'exonération pour que les maires délivrent plus de permis. Ce n'est pas le problème. Le problème, il est comment on finance aujourd'hui le logement social. Et donc, moi, je pense qu'il faut effectivement qu'on puisse avoir accès rapidement à du foncier qui existe, soit auprès de grosses collectivités.
On parle de foncier public. Hein,
de foncier public, voilà, ouais. mais aussi d'autres.
Et c'est surtout, plus compliqué sur le diffus, hein, quand même.
C'est plus compliqué, mais nous, on préempte beaucoup dans le diffus.
Oui.
Hein, parce que,
et pour pouvoir préempter, encore faut-il en avoir les moyens.
Alors, on a cette chance d'aller Hauts-de-Seine, effectivement.
Oui, oui.
La question aussi, c'est que
c'est plutôt,
derrière, le PLI, moi, je ne suis pas contre le PLI, ça donne une corde supplémentaire à notre arc pour loger une diversité, une mixité de public.
Et ce n'est pas une réponse globale. Hein.
Et ça peut permettre de drainer des financements pour réinvestir dans le logement social. Parce qu'en fait, un office public, c'est un modèle exemplaire de l'argent public, hein, donc, qui doit être excellent et économe. Donc toutes nos actions, elles sont orientées pour nourrir le logement social. Et donc, faire du logement locatif intermédiaire, moi, je suis d'accord, si ça me permet de dégager de l'argent pour soutenir le développement de l'offre sociale. Or, si finalement, je suis en concurrence avec des promoteurs pour faire du LLI, je vais être obligé d'augmenter le prix du foncier dans lequel je vais investir. Et à ce moment-là, je ferai juste un équilibre sur mes opérations de LLI. Or, c'est pas clairement ma vocation.
C'est clairement. Clairement. Dernière question. Je sais que voilà, je ne vais pas vous piéger avec les questions politiques, hein, c'est pas le but. Hein. Mais force nous est de constater que quand on lit les pré-programmes, hein, je dis bien les pré-programmes parce que tout le monde ne s'est pas encore déclaré à la présidentielle, hein, je précise. Une chose saute aux yeux, alors vous me dites si vous partagez ou pas, enfin, dans l'approche, on voit bien que la place de la politique du logement comme facteur premier d'inclusion sociale n'est pas présente dans le débat public. Encore une fois. Je dis bien encore une fois. Hein, parce que c'était le cas pour la précédente élection présidentielle. À l'aube d'une présidence qui s'annonce particulière, celle-ci. Hein, particulière. qu'est-ce qu'il faut attendre ? Qu'on attende les gilets jaunes du logement ou pour que ça bouge ou pas ? Alors, est-ce que vous avez un avis sur cette question ? Est-ce que vous aimeriez, vous, Damien, qu'on replace enfin, dans un débat public sain, pas forcément partisan, la question de la politique du logement dans notre pays ?
Alors, je pense que c'est un sujet fondamental qu'on voit quand même au travers de deux thématiques qui, elles, sont très présentes, c'est l'intégration et la sécurité. Le premier besoin, en fait, d'un foyer, c'est d'avoir un toit.
C'est un besoin maslonien.
Voilà. Non, mais tout à fait.
Absolument.
Donc, aujourd'hui, on peut pas faire de la sécurité, en fait, si on précarise les citoyens. Si on ne leur donne pas, en fait, de la visibilité sur du terme. C'est l'un des reproches faits, d'ailleurs, à la contemporanéisation des APL, c'est qu'en fait, ça raccourcit l'horizon temporel des allocataires.
Très juste.
C'est-à-dire que sur 3 mois, on va avoir quelque chose, mais on ne sait pas dans 6 mois ce qu'on aura. Avant, on avait quand même une certitude quasiment.
D'accord.
Ça
augmente ce niveau de stress.
Donc ça augmente la précarité. Donc ça lutte. Enfin, ça détruit la sécurité.
C'est très juste.
Ça détruit
le sentiment de sécurité.
Ça détruit donc effectivement la mobilité, évidemment, sur le logement, puisque du coup, on a moins de facilité à en accepter un autre. Ça accroît les tensions entre les locataires et donc forcément, ça accroît aussi l'hostilité aux autres. Entre guillemets, autres. Et ceux qui ne nous ressemblent pas sont les autres. Voilà. Et donc, on est vraiment au cœur du débat. Et le logement, c'est le creuset, effectivement, de mon point de vue, à la fois de la sécurité, de la cellule famille, du foyer, et aussi de l'inclusion, de l'intégration. C'est par le logement qu'on arrive à le faire.
Ça s'appelle une punchline, mesdames et messieurs. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on concluions cette interview. Le creuset, c'est très intéressant parce que dans le creuset, quelque chose qui est pluriel, qui se rencontre et qui fait socle et qui fait société, avec un cadre qui doit être nécessairement de sécurité pour les foyers. Et tout ça est globalement facteur inclusif pour une société qui non seulement doit se suffire à elle-même, doit être capable de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est bien la situation du jour. Et notre régime qu'on appelle la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui est définitivement acquis, c'est quelque chose qui se gagne au quotidien. Et Dieu sait que la politique d'aujourd'hui, en Europe, mais aussi dans le monde, démontre l'importance de ce que vous dites. Et je pense que le logement revient bien sûr bien autre chose qu'un simple aspect technique de protection maslonienne. Vous savez, la pyramide de Maslow.
Tout à fait.
Et je dirais la chose suivante. Vous avez utilisé une formule quasi philosophique pour cette approche-là. Je pense que ça serait bien qu'on réenchante un peu plus avec un peu de philosophie pour sortir justement de cet effet technocratique, parce qu'il y a au-delà justement de cette notion de logement, il y a des gens. Et ils sont 5 millions à être mal logés dans notre pays. C'est juste pas tolérable. Voilà. Merci Damien Bernouwerscheld. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat, promettez-moi, vous revenez nous voir à Paris dans des débats un peu plus longs, parce que je pense que votre point de vue devrait être éclairé pour toutes les conférences que nous menons dans le futur. Voilà, il est 14h29. On va enchaîner avec la prochaine interview. Je vous rappelle la conférence que j'anime tout à l'heure, La ville sur la ville, avec le Crédit Agricole Immobilier. On vous donne rendez-vous en salle B2, Crédit Agricole Immobilier. Qui sera en présence de Bernard Blanc, justement, qui va nous parler de son département et de ce paradigme de la ville où il ne faut pas s'étaler, mais il faut quand même vivre ensemble, et on est de plus en plus nombreux à le faire. Merci à toutes et à tous, on enchaîne.
Merci, au revoir.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.